Donc, attention, danger, on va parler tout de suite. Bah, justement, je me posais la question, comment ça va l'économie française? Bah oui, hein. Bah oui. Michel Sardou. La France. Nous, on habite en France et les Français ont le droit de savoir, Eric Heyer, comment va l'économie française et si on a mieux traversé la crise que nos petits copains.
Bon, ce qu'il y a, quand on regarde macroéconomiquement, on peut dire oui. Potentiellement, parce que aujourd'hui, on produit 1,2% de plus qu'avant la crise. Donc, 3 ans après la crise, on est 1,2 au-dessus. Quand, même l'Allemagne, vos amis allemands, ben, sont, aujourd'hui revenus à peine au niveau d'avant-crise. Donc, on a surperformé par rapport à l'Allemagne. Et même, vous voyez, le dernier chiffre, ça a été revu à la baisse, ce vendredi. Donc, ils sont à moins 0,4, alors que nous, on fait un plus 0,1. Donc, même sur le.
Donc, c'est bien après 45 ans de retard.
Ça veut dire qu'effectivement, ils ont été plus attaqués sur leur modèle, ils étaient plus connectés à la Russie, ils étaient plus industriels. Bon, alors, donc, si on se compare aux autres, à part entre nous les États-Unis et l'Italie, finalement, qui a relativement bien performé pendant cette crise, bah, eux, on fait mieux que l'Espagne, on fait mieux que le Japon, on fait mieux que le Royaume-Uni, on fait mieux que... Bon, légèrement mieux. Donc, ok, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, il faut relativiser ça de plusieurs façons. D'abord, sectoriellement, on peut pas dire que tout va bien. On l'a dit là. Donc, ça, c'est important. Et après, moi, ce qui me paraît être assez intéressant aujourd'hui, c'est que quand on questionne les Français, les ménages, alors là, ils n'ont jamais eu aussi peu le moral. On est tombé à un niveau extrêmement faible.
Non, mais ça, non, franchement, mais ça, c'est permanent, ça.
Alors, mais d'accord. Mais là, on est à un niveau extrêmement bas et ça se voit où? Ça se voit dans leur consommation. Ouais. La consommation, aujourd'hui, est à peine revenue au niveau d'avant-crise, alors qu'on est plus nombreux, c'est-à-dire que la consommation par tête est en dessous et ils épargnent beaucoup. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez les entreprises. Alors là, tout va bien. C'est-à-dire
tout
que
va bien.
Le
vrai,
climat de confiance ne cesse de s'améliorer. Là, aujourd'hui, dans les derniers points, on est largement au-dessus de la moyenne, que ce soit dans la construction, dans l'industrie, dans les services. Et quand on voit, c'est elle qui tire la croissance. En faisant quoi? En investissant massivement et en embauchant massivement. Donc c'est étonnant. Pas de demande. La demande intérieure est à tonne. La demande étrangère, on a perdu en compétitivité. Donc pas de demande. Et pourtant, elles investissent dans l'avenir et elles embauchent.
C'est ce qui explique peut-être aussi, on en parlera tout à l'heure, la performance des marchés boursiers d'ailleurs, qui n'est pas totalement délirante. Michel, comment va la France?
Je dirais que l'économie française plie face aux aléas, mais ne rompt pas, d'une certaine manière.
Oh, belle image.
Oui, mais en fait, je pense qu'on pourrait la résumer de façon, face on va dire, à l'année 2022, aux aléas de 2022, elle a bien résisté, elle a une certaine résilience. En 2023, ça va être le ralentissement et ça va repartir en 2024. Et donc, à mon sens, il y a
un ralentissement qui n'est pas si fort que ça.
Non, tout à fait. Mais on a enregistré 2,6 en 2022 en termes de croissance. Là, on va vraiment arriver à mon sens, aux environs de 0,3 à peu près.
Vous avez combien, vous?
On a 0,7.
Ok.
Voilà. Et ce qui fait qu'on va avoir vraiment un ralentissement. Puis après, ça va repartir. Pourquoi? Parce que l'inflation va rester haute, mais plus basse qu'elle ne l'est actuellement. On va avoir un décalage par rapport à l'Europe. Mais de manière générale, il y a des bonnes choses. Par contre, il y a quand même des points de vigilance. Il y a l'inflation, il y a aussi la trésorerie des entreprises qu'il convient de gérer. Il y a aussi, il y a toujours le problème de l'énergie. Puis il y a aussi le problème des embauches qui posent de ce type de problème.
Oui, et puis vous évoquez pas les deux, un sujet quand même, c'est que on
d'abord, est
à, un peu à crédit.
Quand même.
C'est sympa de dire on a fait un peu mieux, mais bon, vous prenez mes amis allemands, mes amis allemands n'ont pas tout à fait le même niveau de dette par rapport au PIB. Donc
non, mais
c'est une
question
quand même.
Pendant la crise, la dette publique c'est à peu près a augmenté à peu près de la même manière un peu partout dans tous ces pays-là.
Ils sont revenus à 65%.
Non, ils sont à peu.
Ils sont au même niveau qu'avant la crise.
Non, il y a 15 points d'écart. Il y a eu, c'est vrai que les Allemands, c'est un peu à l'écart, mais en moyenne en zone euro, si on enlève l'Allemagne, d'accord. Oui, si on enlève l'Allemagne. Non, mais c'est vrai. Mais attention, les Allemands.
Non, mais je le dis pour les gens qui savent pas, le niveau de la dette aujourd'hui en Allemagne est exactement au même niveau.
C'est vrai, mais vous voyez.
Avant la crise.
Un certain nombre de subventions, vous voyez, ils mettent 200 milliards sur la table. 200 milliards, ça devrait faire augmenter la dette. Non, parce que ils les isolent. Ils mettent ça dans un autre.
Nous aussi, on fait ça, arrêtez.
Oui, mais pas
vous
à hauteur.
Vous qui êtes dans ces comités de haute finance,
pas à hauteur de 200 milliards. Vous voyez, si. Vous voyez, là, un plan de relance à 200 milliards, vous voyez, on n'a pas osé le faire, nous. Eux, ils le font, et ça ne va pas dégrader leur dette. Il faut juste se poser la question, comment, où est-ce que c'est comptabilisé, ces 200 milliards?
Non, c'est la difficulté. Mais je pense que, au niveau
la dette, quand même, c'est un sujet, ou pas?
Non, tout le monde s'en fout.
Non. La dette, c'est le fait de s'endetter, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent.
Oui,
la
difficulté, problème, c'est de payer aussi les intérêts.
Oui, non. Mais non. Si le problème, c'est quoi? C'est si on arrive à faire des investissements de croissance. Oui, ok. Et c'est tout le problème. C'est pas l'endettement lui-même qui m'inquiète. C'est l'argent qu'on en a fait. L'idée, c'est est-ce que on s'est endetté pour, on va dire, renflouer un peu l'économie française.
Bah,
l'idée,
le bouclier tarifaire, voilà, c'est pas de l'investissement.
Non, mais voilà. Ça permet de conserver un outil et une capacité. On n'a pas eu la récession. On a frôlé. On est tangent. Mais on risque de repartir. C'est ça qui est important. Il ne fallait pas arrêter l'économie. C'est ça qui est important.
Quand je dis le bouclier, ce n'est pas de l'investissement, vous dites Nantes.
Non, mais c'est sûr que s'endetter pour soutenir le pouvoir d'achat, même un keynésien est contre.
D'accord.
Donc ça, effectivement, ce n'est pas la bonne façon de s'endetter. Donc il va falloir trouver un financement. Donc qu'on ne le fasse pas tout de suite, ce financement, ok, qu'on le retarde. Et je pense que du coup, on a regardé aujourd'hui, mais pour moi, le risque est de 2024. C'est-à-dire que 2024, ça y est, normalement, le pacte de stabilité qui avait été mis entre parenthèses, aujourd'hui, en 2024, il va être là. Et donc, il va falloir réduire assez vite. On va finir aux alentours de 5% de déficit. Il va falloir vite revenir à 3 et ensuite à 0. Et la dette va devoir, si on ne change pas les règles, effectivement, on va partir à partir de 2024 sur des impulsions budgétaires, donc de l'austérité assez forte. Et donc, ça sera ça. La question, c'est comment on finance tout cela? Est-ce que c'est par des impôts, mais le gouvernement est contre? Ça va être par de la dépense publique. Et là, c'est là où je pense qu'il y aura un petit problème social.
Un petit sujet.
Parce que, effectivement, vous voyez, aujourd'hui, les boucliers, tous ces boucliers-là, ont profité à tout le monde, parce qu'on n'a pas pu les cibler.
Et ils vont disparaître.
Ils vont disparaître, mais on va dire, on va les financer uniquement par la réduction de la dépense, c'est-à-dire par des classes intermédiaires. Je pense que le plus juste aurait été que tout le monde y participe à ce financement, parce que tout le monde a bénéficié. Et donc, mais ça passe par une augmentation d'impôts, mais qui n'aura pas lieu.